Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous arrivons à la fin de notre série concernant les anges qui nous servent. C'est l'étude numéro 9. Mais si vous possédez Internet, il y a sur www.bibleexplique.ch, vous trouverez plus de 3000 sujets d'études de la Sainte Bible. Et parmi toutes ces études, encore de nombreuses études sur le ciel, l'enfer, les anges, les prophéties. Et je vous recommande aussi le témoignage fabuleux de Marietta. Pour le moment donc, nous allons terminer avec trois petits sujets. Premièrement, l'ange qui opère la résurrection. Deuxièmement, l'ange qui interprète la vie. Troisièmement, l'ange qui nous amène au ciel. Donc, premièrement, l'ange qui opère la résurrection. Dans tous les récits de la résurrection, les anges jouent un rôle très important. Ils emportent témoignage et expliquent aux femmes ou aux disciples le mystère du tombeau vide. Dans l'évangile de Saint Matthieu, l'ange du Seigneur semble non seulement témoigner de la résurrection, mais même d'opérer et l'accompagner. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, nous avons Marie de Magdala et l'autre Marie. Ils sont venus pour visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et il vient pour rouler la pierre sur laquelle il s'est ensuite assis. Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi. Et ils sont devenus comme morts. Mais l'ange prit la parole et il dit aux femmes, « Ne craignez point, vous. Je sais bien que vous cherchez Jésus, le crucifié, mais il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait et vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts et voilà qu'il vous précède en Galilée et c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit, et quittant vite le tombeau, tout ému, et pleine de joie, ces deux femmes ont couru pour porter la nouvelle à ses disciples. Saint Matthieu chapitre 28, versets 1 à 8. Dans l'évangile de Saint Matthieu, les femmes ne vont pas au tombeau pour oindre le corps de Jésus, mais pour regarder le tombeau lui-même. Le mot du texte grec signifie « considérer, contempler et méditer ». Elles viennent dès la fin de la soirée, car le jour nouveau commence après le crépuscule. Elles se proposent de passer toute la nuit auprès du sépulcre pour déplorer la mort de Jésus, et pour penser à lui et de méditer. Et voilà que se produit un fort tremblement de terre. Toutes choses en sont ébranlées, bouleversées. C'est un mouvement qui pénètre jusque dans l'immobilité pétrifiée de la tombe. Alors l'ange du Seigneur descend du ciel. Le tremblement de terre et l'apparition des anges sont dans l'Ancien Testament les deux manifestations essentielles de la rencontre avec Dieu quand Dieu apparaît et intervient dans le cours du monde. Il s'annonce par le tremblement de terre et les anges. L'ange écarte la pierre du sépulcre et il s'assied dessus. Bien souvent, une pierre pèse sur nous également. Cette pierre nous bloque et nous empêche de vivre. Elle nous écrase là précisément où la vie en nous voudrait pourtant s'épanouir. Sous cette pierre, la vie ne peut pas se déployer, elle reste étouffée. L'ange connaît nos blocages et ôte la pierre là où elle nous empêche de le plus de pouvoir vivre correctement. Puis, nous voyons que l'ange s'assied dessus de cette pierre qui nous écrasait. L'ange fait le signe de la présence de Dieu qui va nous libérer. L'ange de ce récit est très puissant. Il brille comme la foudre dans les ténèbres. Les soldats qui gardent le mort tremblent de peur. Ils sont eux-mêmes comme morts pendant que celui qu'ils gardaient revient à la vie. En nous, il y a de ces sentinelles qui surveillent ce que nous avons de mort en nous, qui sont attentifs à ce que surtout rien ne change en nous, à ce que tout reste en état et que nos principes ne soient surtout pas trop ébranlés. Et quand l'ange, tel un éclair, fait irruption dans ce tombeau qui est devenu notre univers, les sentinelles sont jetées au sol. Elles ne peuvent plus empêcher ce qui veut vivre en nous de sorte et de sortir, de se déployer. Alors il émane de ces anges une énorme puissance. Cette puissance fait exploser le sépulcre où nous sommes tant bien que mal installés avec nos fameuses déceptions et notre résignation parfois, même un peu beaucoup. L'ange ne nous y laisse pas dormir paisiblement, mais il nous secoue et il nous réveille. La résurrection, vous sachez que la résurrection, ce n'est pas seulement une histoire ancienne, en nous aussi, l'ange du Seigneur, il veut opérer la résurrection en écartant la pierre qui nous immobilise. On a des fois un poids sur nous, on le sent, qui est en train parfois de nous immobiliser. Et beaucoup de gens préfèrent rester couchés dans leur tombe ou sur leur lit. Hein. Ils se plaignent bien sûr qu'elle soit si humide et si sombre cette fameuse tombe. Mais ils ont peur de se relever, car il leur faudrait alors, hélas, affronter la vie telle qu'elle est. Ils risqueraient d'être blessés et il n'aurait plus d'excuses pour s'être installé dans le refus total. Il faut donc qu'un ange les secoue, les bouleverse, déclenche en eux un mouvement qui les jettera hors du tombeau. L'ange provoque donc la stupeur et l'effroi. Mais il dit aux femmes qu'elles ne doivent point craindre. Il leur montre que le tombeau est vide, que Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus, elle ne le retrouve plus dans le sépulcre, dans le passé, dans le deuil de ce qui fut autrefois, mais il les précède maintenant en Galilée, et c'est en Galilée qu'elles le verront. Elles le reverront là, non pas dans la ville sainte, mais dans cette région méprisée, où juifs et païens vivent ensemble, mélangés. Là où nous vivons, dans la banalité du quotidien, là où se mêlent le sacré et le profane, la proche présence et l'absence de Dieu, ce qui nous fait familier et ce qui nous, on peut dire, dépasse et nous sépare, là où nous nous méprisons nous-mêmes, et c'est là que nous verrons le ressuscité et que nous ferons sa rencontre. Et c'est au cœur même du désordre de ce monde que nous connaîtrons la résurrection. C'est au fond du mépris de nous-mêmes que le ressuscité nous remettra debout. L'ange donne donc aux femmes la mission de devenir elles-mêmes des messagères de la résurrection et d'apporter aux disciples la bonne nouvelle. Jésus s'est réveillé d'entre les morts. Ces femmes voulaient seulement voir le sépulcre. Elles voulaient rester spectatrices. Et voilà qu'elles sont chargées d'une tâche. Elles doivent aller vers les disciples et témoigner auprès d'eux que la vie a vaincu la mort, que l'amour est plus fort que la haine, que la pierre qui entravait la vie est écartée et que la tombe est maintenant ouverte. Elles quittent donc ce lieu plein de joie, mais aussi de crainte, car elles sont frappées de stupeur par ce qui s'est passé. Pour elles, l'ange n'a pas été seulement le témoin de la résurrection de Jésus, il les a tirées elles aussi de leur abattement. Elles se sont levées et elles se sont mises en route. Sur leur chemin, elles ont rencontré le ressuscité lui-même. Elles ont su alors que le message de l'ange était véridique, et c'est ainsi qu'elles sont devenues à leur tour messagères de la résurrection. C'est bien là le plus grand effet qu'un ange puisse produire dans notre vie, écarter la pierre qui ferme notre tombe et nous en fait ressortir, rester couché et rendre les autres peut-être même responsables de ce que l'on est, c'est tellement plus facile que de se lever soi-même, de se lever nous-mêmes. Oui, il est plus commode de se sentir victime que d'assumer la responsabilité l'intégralité de sa vie. L'ange qui nous accompagne nous empêche de rester dans ce rôle de victime. Il écarte la pierre de notre tombe afin que nous nous levions par nous-mêmes et que nous affrontions la vie. Il nous met en contact avec notre propre force. Il n'est pas seulement à l'extérieur, il est aussi en nous. Parfois, nous avons besoin d'être humains, des humains qui jouent le rôle de l'ange, écartant la pierre et nous donnant le courage de nous lever. Mais nous lever, eh bien cela, nous devons le faire, bien entendu, nous-mêmes. Il s'agit alors de se fier à la force que l'ange éveille en nous, qui est là, avec nous. Les enfants déjà connaissent la tombe. Quand nous étions petits, nous avons solennellement enterré des oiseaux morts et planté une croix sur leur tombe. Oh, il y a tellement longtemps de cela, vu mon très grand âge, nous savions d'instinct, à l'évidence, que tout ce qui est mort doit être enterré, car c'est seulement ainsi que sont possibles la métamorphose et la résurrection. Ce qui est ancien, ce qui a fait son temps, il nous faut le porter en terre, car nous ne pouvons pas le traîner derrière nous toute notre vie durant. Mais certains enfants ont une autre expérience de la tombe. Ils se sentent comme enterrés sous une pierre. Ils n'arrivent pas à vivre. Pour eux, tout se passe comme s'ils n'étaient pas à l'air libre. L'atmosphère étouffante de la maison parentale recouvre tout ce qui, en eux, voudrait pourtant s'épanouir. C'est comme une pierre qui pèse sur eux et les empêche de vivre. Parfois, les enfants semblent inaccessibles. Ils vivent dans un autre monde. Une grosse pierre leur barre l'accès à la réalité. Les parents sont alors souvent inquiets de voir leurs enfants se retirer dans sa propre tombe. Ils ne savent pas si un ange y pénétrera au cœur de la nuit pour en écarter la pierre. Le récit de la résurrection dans l'évangile de saint Matthieu est fait pour nous donner confiance. Ce confinement dans la tombe, pour un enfant ou pour un adulte, n'est pas définitif. Non, non, non. Surtout quand tout n'est que ténèbres et tristesse, quand la dépression a découvert, plutôt recouvert la vie toute entière. Ça arrive, je connais des personnes qui ont des dépressions terribles. Un ange descend du ciel et déclenche un tremblement de terre. Si dans un rêve ou sous les traits d'un accompagnateur fidèle, ou encore à l'occasion d'une expérience intérieure, il descend dans notre tombe, alors nous pourrons, nous aussi, ressusciter et vivre vraiment. L'ange peut venir à nous comme un éclair spirituel qui illumine nos ténèbres et nous donne la possibilité de nous relever. Deuxièmement, nous avons l'ange qui interprète la vie. Dans l'évangile de Saint-Luc, les anges jouent un autre rôle lors de la résurrection. Ils interprètent l'événement pour les saintes femmes. Celles-ci entrent dans le tombeau et n'y trouvent pas le corps de Jésus, mais elles ne comprennent pas ce que cela peut signifier. Et il advient, comme elles en demeuraient perplexes, que voilà que deux hommes se sont tenus devant elles en habits éblouissants. Et tandis que, saisies d'effroi et on le comprend, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ces anges, ces deux personnes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Je répète, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Car il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se rappelèrent ses paroles. Et à leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Saint Luc 24, chapitre 24, versets 4 à 9. De même que dans l'Ancien Testament, les anges sont représentés ici sous une forme masculine. Ils portent un vêtement resplendissant qui signe leur qualité d'envoyé de Dieu. Tous les deux, ils posent aux femmes une question aux allures de proverbe. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Elles ne doivent pas chercher le ressuscité dans la tombe, au royaume des morts. Ce proverbe a gardé toute son actualité. Bien des êtres pieux, religieux, disons entre guillemets, cherchent encore aujourd'hui Jésus au royaume des morts, dans le domaine de la lettre morte et d'une piété purement légaliste. D'autres le cherchent dans le passé, et seulement dans le passé, ils gravitent autour des formes traditionnelles de la religion, au lieu d'affronter la vie. Certains se servent de leur vie spirituelle pour esquiver la vie au lieu de la laisser entrer en eux. D'autres encore cherchent la vie, ils la cherchent chez les morts. Ceux qui placent leur satisfaction dans l'argent, par exemple, dans les grandes possessions, dans le pouvoir, dans la fameuse carrière, et dans le prestige. Au ressuscité, cela signifie cesser de chercher la vie dans des choses mortes et la découvrir en soi-même. Ensuite, les deux anges expliquent la résurrection. Ce qui était incompréhensible au premier abord s'éclaire tout un coup. Ils rappellent aux femmes les paroles de Jésus, prophétisant son chemin de croix. À l'évidence, ces paroles étaient, on peut dire, restées obscures pour les disciples. Mais voilà qu'elles s'éclairent soudain et leur montrent en toute lumière la voie qu'a suivi leur maître. Ils peuvent maintenant comprendre que Jésus avait prédit non seulement sa mort sur la croix, mais aussi sa résurrection au troisième jour. L'ange est devenu une image importante. Les anges qui nous accompagnent nous initient au mystère de notre existence. Ils nous en découvrent le sens quand tout nous paraît en être dépourvu. Aussi bien, ne pouvons-nous pas vivre correctement si l'interprétation de la vie nous manque? Notre expérience de la vie est déterminée par le sens que nous lui donnons. Or, l'ange nous éclaire sur notre existence telle que Dieu la voit, si nous croyons en le sens qui lui donne notre vie sera réussi. Elle sera réussie. Et pour les enfants, eh bien oui, les interprètes de la vie sont normalement les parents. Mais souvent les enfants se cherchent d'autres interprètes encore, tels que les grands-parents, s'ils en ont. Ces grands-parents sont à cet égard des partenaires préférentiels. Ils expliquent à l'enfant tout ce qu'il vit à partir de leur propre expérience de la vie et lui apportent ainsi une nouvelle lumière. Dans leur façon d'interpréter l'existence, ils laissent souvent transparaître quelque chose du mystère de la vie. Cela fascine les enfants. La vie n'est pas seulement faite de banalité. Oh non, il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. La vie a bien des dimensions, elle atteint jusqu'au ciel. Et là, il y a des anges qui nous accompagnent et nous font apparaître l'existence sous un jour merveilleux. Une interprétation superficielle, n'ouvrant que sur une simple adaptation au contexte, cela ne suffit pas aux enfants. Ils veulent approcher le mystère de la vie et ils n'acceptent pas une interprétation qui n'impliquerait pas aussi la mort. Les enfants ne sont pas satisfaits que si la mort n'apparaît pas comme une catastrophe, mais comme une voie vers la résurrection. Ils ont en eux un sens aigu du mystère de la vie et de la mort, et c'est pourquoi ils abordent le fait de mourir avec beaucoup moins de prévention que les adultes. Leur ange leur dit que la mort n'a pas le dernier mot. Les défunts vont à Dieu et retrouvent au ciel un autre mode d'existence, celui que les enfants se représentent et désirent. Nous aussi les adultes, pour autant que nous avons compris que nous étions perdus et que nous avons accepté la main tendue de Jésus-Christ pour être sauvés, nous avons sans cesse besoin d'anges qui interprètent pour nous notre vie. Dans la conversation avec un ami, nous découvrons brusquement que tout ce que nous avons vécu jusqu'ici avait un sens. Dieu nous a conduits sur la bonne voie. Ou bien encore, en écoutant un sermon, nous voyons tout à coup clairement ce que signifie notre situation présente. Rentrant chez nous, eh bien, nous sommes devenus tout autres. Nous comprenons maintenant notre vie et nous pouvons accepter telle qu'elle est. Nous pouvons donc l'accepter malgré que ce n'est pas toujours tout rose. Si nous assistons à un enterrement, nous allons jusqu'à la tombe, le cœur endeuillé, mais alors les paroles prononcées et les prières nous communiquent une interprétation qui nous montre ce qui se passe sous un autre jour. Si nous avons connu un échec, nous nous plaignons auprès d'une amie, c'est toute l'organisation de notre vie qui est ruinée. Après cette conversation, pourtant, nous sentons que quelque chose nous porte malgré tout, jusque dans l'échec. Nous reconnaissons la présence d'un sens nouveau. Et tous les êtres qui interprètent pour nous notre vie, nous les éprouvons comme des anges, et souvent comme des anges de la résurrection qui nous donne le courage et l'assurance de nous redresser, de sortir de la résignation et d'aborder, une toute nouvelle vie. Chers amis, je dois juste, enlever mon pull-over parce que j'ai quelques douleurs assez épineuses. Oh là là. Mais merci Seigneur de m'aider à terminer cette étude et que le Saint-Esprit me guide et que le Saint-Esprit m'assiste. Merci, ô Dieu trois fois saint, que c'est merveilleux de pouvoir se confier dans notre Sauveur Jésus-Christ à tout moment de notre vie. Même quand parfois nous avons des douleurs pas très agréables. Évidemment, à 89 ans, il y en a quand même quelques-uns parmi nous qui ont des petits bobos, n'est-ce pas? Merci que je peux continuer maintenant. Donc, pour terminer troisièmement, nous avons l'ange qui nous amène au ciel. Et oui, chez tous les peuples, on retrouve l'image de l'ange de la mort, de l'ange qui nous fait passer en sécurité la porte de la mort. Certains chercheurs spécialisés en thanatologie, comme Raymond Moody, où Elisabeth Kübler-Ross parle d'entités lumineuses qui apparaissent aux mourants et se tiennent à côté d'eux avec amour. Il s'agit là des anges qui nous accompagnent pendant l'agonie et nous accueillent dans le monde de l'au-delà. Dans le récit évangélique de l'homme riche et du pauvre Lazare qui gît à sa porte, malade, couvert d'ulcères, il apparaît là, dans une image, avec l'ange de la mort. Or, il advient, et il dit, que le pauvre mourut et qu'il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Saint Luc, chapitre 16, verset 22. La croyance en des anges qui nous emportent au ciel est très largement répandue. Oh oui, chers amis, puissent les anges nous emporter au ciel comme ils les emportèrent Lazare. Lazare, cela signifie Dieu aide. Dans la mort, nous ne restons pas sans assistance, car Dieu lui-même envoie ses anges afin qu'ils continuent à nous venir en aide quand dans la mort, nous ne pouvons plus rien faire. Les anges nous amèneront dans la cité sainte, dans ce ciel où ils adorent le Très-Haut. Et là le chœur des anges se réjouira de notre venue et entonnera un chant de gratitude. Il y a un très beau tableau peint vers les années 1200 par un vieux maître qui représente les deux archanges Raphaël et Gabriel emportant au ciel dans un linceul l'âme d'un défunt. Cette image est un réconfort pour les malades et pour les mourants. Ils ne tomberont donc pas dans les ténèbres de la mort, mais ils seront portés avec douceur par des anges pleins d'amour jusqu'au sein maternel de Dieu. C'est l'archange Michel qui est invoqué comme étant l'ange qui doit nous conduire à la lumière éternelle. Après la prière, demandant à Dieu de préserver les croyants défunts des tourments de l'enfer, le texte dit que, au contraire, l'archange Michel, le porteur de l'étendard, les guide vers la sainte lumière que tu as promis jadis à Abraham et à sa descendance. L'archange Michel, précisément, le voyant champion de Dieu, combattra pour nous, oui, aussi, afin que nous parvenions sans aucun encombre sur l'autre rivage, jusqu'à la sainte lumière de Dieu, dans laquelle nous deviendrons nous-mêmes pure lumière. L'ange est réconfortante. Un ange, oui, un ange qui nous accompagne ici tout au long de notre vie. Il nous protège sur nos chemins. Il ne cesse de nous inciter à vivre vraiment. Il guérit nos blessures, il nous tire de nos prisons, et même dans la mort, il ne nous abandonnera pas. Il nous conduira en toute sécurité jusqu'au-delà de cet abîme qui depuis toujours épouvante les hommes. Alors, il aura accompli sa tâche et il pourra se mêler à jamais au cœur céleste qui chante éternellement les louanges de Dieu. Dans notre agonie, non plus, l'ange ne nous quittera pas. Sa présence ôtera à la mort ce qu'elle a d'effrayant. Quand nous sommes réduits en quelque sorte d'impuissance, que nous sommes livrés à la douleur et à la solitude, eh bien l'ange est auprès de nous. Nous ne franchirons donc pas tout seul la porte de la mort, car l'ange nous accompagnera. Johann Sebastian Bach a conclu sa passion selon Saint Jean par une chorale réconfortante. S'il vous plaît, écoutez ces paroles. Ah, Seigneur, fais que ton cher petit ange, quand la fin sera venue, emporte mon âme dans le sein d'Abraham, que mon corps, dans la petite chambre où il dormira, en paix, sans connaître de tourment, repose jusqu'au jour du jugement. Puisse mes yeux te voir dans la joie pure, ô Fils de Dieu, mon Sauveur, ô trône de grâce, Seigneur Jésus-Christ, entends ma prière. Je veux chanter tes louanges éternellement. Ceci vient de Johann Sebastian Bach, de sa passion selon Saint Jean, et c'est donc merveilleux. Bien des gens ne savent que faire de ce langage. Pourtant, ce que vivent beaucoup d'êtres aux portes de la mort nous le fait apparaître sous un jour tout nouveau. Les anges de Dieu nous guideront dans la mort et nous déposeront entre ses mains aimantes. Aux enfants, cette idée ne pose aucun problème, car ils vivent dans le monde des anges et ils sont convaincus que leur ange les emportera eux aussi à travers la mort dans le sein d'Abraham et qu'ils s'endormiront dans les bras maternels de Dieu. La mort n'est pas sans analogie avec la naissance, avec un sein maternel. En elle, eh bien oui, nous connaîtrons éternellement cette sécurité à laquelle ici-bas nous aspirons et dont il nous est certes donné de faire l'expérience, mais qui reste toujours alors éphémère et fragile. Dans la mort, nous reposerons à jamais dans le sein maternel de Dieu, à jamais nous connaîtrons la joie de l'amour divin. Chers amis, en conclusion, disons que les anges dont parle la Sainte Bible nous enseignent que dans toutes les situations de la vie, nous sommes aidés par une présence salvatrice. Dieu n'est pas seulement un mystère très lointain et totalement insaisissable à travers ses anges, eh bien Dieu, il intervient dans le déroulement concret de notre existence, et cela, je le sens très souvent, c'est quelque chose de réel. Chaque être humain a son ange protecteur. Telle est donc la bonne nouvelle de toutes ces histoires que rapporte la Sainte Bible. Telle est aussi la connaissance que nous apporte la tradition spirituelle. Dans la maison de son âme, tout homme a besoin d'espace réservé où il se sente protégé et qu'il puisse se recueillir et se ressourcer. Voyez-vous ? Donc, chers amis, les anges, ils ont entendu nos cris. Ils l'ont entendu quand nous étions enfants, quand nous avons été blessés et offensés, quand nous nous sommes sentis livrés à l'arbitraire et au mépris. Ils ont été près de nous dans nos souffrances, dans nos angoisses et dans nos peurs, dans notre impuissance. Dès l'enfance, nous avons su que l'ange était à nos côtés et même nous savions qu'il était en nous une source et une ressource de force, de sécurité et de guérison potentielle, de créativité, origine d'inspiration salutaire. Les anges nous ont introduits dans ce monde intérieur où nous étions hors d'atteinte. Ils nous ont conféré l'aura d'une dignité dont personne n'avait le pouvoir de nous dépouiller. Adultes, nous pouvons maintenant renouer avec cette expérience que nous avons faite des anges quand nous étions enfants. Mais nous pouvons aussi regarder encore notre ange, nos anges, avec les yeux de l'enfance, en les considérant comme nos amis que Dieu a prévus pour nous assister. Voir l'ange dans ma propre vie, pour moi, cela signifie ne plus rester enchaîné à l'histoire de mes blessures, de mes humiliations nombreuses, de mes échecs et de mes défaites, et j'en ai eu. Entrer en contact avec l'ange, cela veut dire pour moi de découvrir les traces qu'il a laissées dans mon existence. Lorsque nous considérons la présence de l'ange dans notre vie, eh bien, nous sommes libérés de l'oppression exercée sur nous par des êtres méprisants et blessants. À travers les anges, éprouvez tout simplement la proximité de Dieu, son pouvoir de guérison et de libération. Et nous sentons le souffle délicat de son amour nous environner, nous envelopper à chaque instant de notre vie. La rencontre des anges fait de nous, à notre tour, des anges pour autrui, pour ceux que nous côtoyons. Telle est donc, sans doute, notre vocation à nous tous, c'est de devenir les uns pour les autres, en quelque sorte, des anges, chacun ouvrant le ciel au-dessus des autres et leur faisant sentir la présence proche, aimante et secourable de Dieu. Amen. Chers amis, je vais essayer de vous mettre quelques chants d'un lointain passé. J'avais enregistré en 1970 des chants de Johnny Cash. Oh, c'est bien vieux tout cela. Johnny Cash se trouve maintenant près du Seigneur. Alors, essayons si cela fonctionne et que le Seigneur vous bénisse richement. Je voudrais ne pas oublier, avant de mettre ces chants, de terminer par la prière. L'Esprit Saint me fait me rappeler que je devrais faire cela avant de vous donner les chants. Ô notre Dieu, élève toi-même nos cœurs et nos pensées vers ces choses invisibles qui sont éternelles. Donne-nous de nous affectionner aux choses qui sont en haut et non point à celles qui sont sur la terre. Détache nos cœurs de tout ce qui est terrestre et passager, et que nous soyons fondés et enracinés en toi, qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, que nous sommes heureux de te connaître, Seigneur. Quelle grâce tu nous as faite de te révéler à nous. Nous t'invoquons pour tous ceux dont le cœur appartient encore au monde et qui poursuivent des choses qui n'ont que une apparence de bonheur. Surtout pour les membres de nos familles qui ne te connaissent point encore. Alors tourne leur cœur vers toi, s'il te plaît. Toi qui es l'auteur et la source de tout bien. Révèle-toi à eux comme étant leur Dieu sauveur, quand seul capable de satisfaire leur cœur et de pacifier leur conscience. Rends-nous donc fidèles envers eux, Seigneur, fidèles dans notre témoignage, fidèles dans notre vie, afin qu'elle soit elle-même un véritable témoignage. Nous te prions aussi pour les affligés qui souffrent loin de toi, sans Dieu et sans aucune espérance. Seigneur Jésus, approche-toi d'eux, sers-toi de leur souffrance même pour les appeler à toi. Montre-leur qu'il n'y a aucune proportion entre les souffrances du temps présent, qui ne sont pas toujours très agréables, j'en sais quelque chose, et la gloire à venir, qui doit être manifestée, et que ta présence et ton amour peuvent adoucir la peine, même la peine la plus amère. Ô, excuse et exauce-nous, Seigneur, pour l'amour de tes compassions. Amen. Amen. Et maintenant, je vais vous mettre quelques chants.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I found him by the railroad track this morning. I could see that he was nearly dead. I knelt down beside him and I listened, just to hear the words a dying fella said. He said they let me out of prison out in Frisco. For 10 long years I paid for what I'd done. I was trying to get back to Louisiana, to to see my rose and get to know my sun. Give my love to Rose, please won't you, mister? Take her all my money, tell her buy some pretty clothes. Tell my boy that daddy's so proud of him. And don't forget to give my love to Rose. Won't you tell him I said thanks for waiting for me? Tell my boy to help his mom at home. Tell my Rose to try to find another, 'cause it ain't right that she should live alone. Mister, here's a bag with all my money. It won't last him long the way it goes. God bless you for finding me this morning. Now don't forget to give my love to Rose. Give my love to Rose, please won't you, mister? Take her all my money, tell her buy some pretty clothes. Tell my boy that daddy's so proud of him. And don't forget to give my love to come and go, and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. Good, do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
Train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling on down to San Antone. When I was just
just a baby. My mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Well, I saw you with another it made me lose my mind. Shot you with my 38 and now I'm doing time, and you put me here, you put me here. Well, there's no way to doubt it, there ain't no two ways about it. As sure as your name's Kate, you put me here. I've been trying to tell him that I didn't do no wrong, only gave you what you've been deserving all along. And you put me here, you put me here. There ain't no use in denying you done it with your lying. As sure as your name's Kate, you put me here. Found me guilty, they wouldn't hear my plea. I listened as that judge said murder in the first degree. And you put me here, you put me here. Well, there ain't no need to doubt it, there ain't no two ways about it. As sure as your name's Kate, you put me here. Now the warden and the preacher, they're letting me go slow. It won't be long until I'm gone, just 13 steps to go. And you put me here, you put me here. There's just one way to figure, you're cheating, pull the trigger. As sure as your name's Kate, you put me here. Well, there ain't no need to doubt it, there ain't no two ways about it. As sure as your name's Kate, you put me here. Kate, you just plain bad, you know that.
You wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.